U genocidu u Srebrenici su mi odveli 22 člana moje familije.
J'ai perdu 22 membres de ma famille pendant le génocide de 1995. Deux sœurs, mon fils, dont je n'ai pas encore retrouvé les restes, mon mari et d'autres membres de ma famille. Donc ils ont fait un crime sur les vivants en 1995. Et on voit aujourd'hui qu'ils ont fait un crime sur les morts, puisqu'ils les ont déplacés d'un charnier à l'autre. Ils ont même fait un crime sur nos sentiments de mère, alors que nous essayons de retrouver la justice et la vérité. Notre but, c'est que chaque victime soit dans sa propre tombe, que chaque mère puisse venir sur cette tombe, qu'elle puisse voir que son fils a retrouvé sa dignité, que cette tombe a finalement un nom et un prénom. Ça nous donne d'abord un sentiment de bonheur juste après l'enterrement, et ensuite c'est une grande douleur à cause de l'injustice qui a été commise, à cause de cette violation des droits de l'homme. Et c'est vrai qu'on a été victime, juste parce qu'on appartenait à une autre ethnicité.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Munira Subasic était en 2008, lorsqu'elle s'exprimait ainsi au micro de Laure de Vulpian sur France Culture, la présidente de l'Association des maires de Srebrenica. Le nom de cette petite ville de Bosnie-Herzégovine est lié à jamais au massacre perpétré en juillet 1995 par les troupes du général Mladic, qui avait entrepris le nettoyage ethnique de ce territoire en vue de l'annexer à une future Grande Serbie. Plus de 8000 hommes et jeunes garçons musulmans y furent exécutés, les femmes étant expulsées dans le meilleur des cas. Mais autour de Srebrenica, des milliers d'autres victimes succombèrent à ce que le tribunal de La Haye a qualifié de génocide et pour lequel Mladic et Karadzic furent plus tard condamnés à la perpétuité. Entre 1992 et 1995, la guerre en ex-Yougoslavie a causé environ 100 000 morts et plus de 40 000 disparus, parmi lesquels 85% de Bosniaques. 25 ans plus tard, 12 000 n'ont toujours pu être retrouvés et identifiés. Franco-finlandaise, Taina Tervonen est journaliste et documentariste. Elle a réalisé pas moins de 23 webdocs pour l'excellent site Les Jours, tous consacrés au drame des migrants et notamment à ceux qui disparaissent en Méditerranée. Obsédée, dit-elle, par ces milliers de fantômes dont les proches ne parviennent pas à faire le deuil, elle s'est intéressée aux médecins légistes qui, en Espagne et en Italie, tentent d'identifier les dépouilles pour que ces morts laissent une trace dans les mémoires. En 2010, elle se rend en Bosnie-Herzégovine et assiste, fascinée, au travail de fourmis des équipes d'anthropologues qui fouillent les charniers pour reconstituer des squelettes, souvent déplacés maintes et maintes fois par les coupables dans le but de cacher leurs crimes. Taina Tervonen reviendra plusieurs fois sur ces terres où tant de fantômes attendent ici aussi leur délivrance et elle y tournera un film « Parler avec les morts ». Aujourd'hui, elle publie un livre « Les Fossoyeuses » paru chez Marchiali en hommage à deux femmes qui ont consacré leur vie à cette recherche. Bonsoir Taina Tervonen.
Bonsoir.
Quand on regarde votre travail depuis 15 ans, on se demande, et je vais vous poser la question, vous êtes obsédée par les fantômes. Vous leur parlez, quel est votre rapport avec ces fantômes à qui tout le monde tourne le dos, sans doute par excès de malheur. Quand les gens voient trop de morts, trop de malheurs partout, que ce soit en Méditerranée, en ex-Yougoslavie, au bout d'un moment, ils ont envie de lâcher l'affaire. Et vous, vous êtes là, pourquoi ?
Peut-être que je suis là parce que je pense que derrière tous ces chiffres qu'on voit, et je pense que quand on lâche l'affaire, en quelque sorte, c'est qu'on en a marre de compter. C'est que les êtres humains sont devenus des chiffres, ils sont devenus des numéros et ils ont arrêté d'exister en tant qu'êtres humains. Et moi, je continue de penser, et je ne suis pas la seule. Senem et Daria, dont je raconte l'histoire dans le livre, pensent pareil. C'est que derrière chaque chiffre, chaque numéro, il y a une histoire, il y a un être humain, il y a une famille, il y a des proches, il y a des amis. Et je crois que c'est ça que je cherche. Non, je ne parle pas aux fantômes, en tout cas pas pour le moment. peut-être que ça finira par venir, je sais pas. Mais je m'intéresse beaucoup aux traces, je crois. Et c'est ça qui m'a poussée à partir en Bosnie en 2010 pour la première fois. C'est une question assez simple, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit avec les traces de la guerre 20 ans, 25 ans après. C'est à la fois un temps qui est court et puis c'est un temps qui est long. C'est le temps d'avoir une nouvelle génération qui arrive, des jeunes qui, enfin des enfants qui naissent et qui deviennent des jeunes adultes. Comment on transmet cette histoire-là? Je crois que c'est ces questions-là qui m'intéressent.
Votre livre, Les Fossoyeuses, en plus de raconter cette histoire saisissante, de dresser le portrait de ces deux fossoyeuses dont nous reparlerons dans l'émission, c'est un livre qui est, ça a l'air absurde de dire ça, mais enfin, je vais vous le dire, qui est magnifiquement écrit, avec une écriture très particulière, avec des phrases qu'on retrouve avec un certain rythme. Et ça fait irrésistiblement penser à ces récits antiques qu'on a lus quand on était au lycée ou en faculté, ces récits des conteurs grecs. Il y a un côté Antigone qui veut donner une sépulture à son frère. Il y a un côté Mélopée antique, il y a un côté cœur antique. Vous l'avez fait sciemment ou c'est quelque chose qui vient du tréfonds de votre mémoire à vous?
Alors j'ai beaucoup lu des différentes versions d'Antigone quand j'étais en train de tourner le film, Parler avec les morts. Ce qui me fascinait dans ces histoires-là, c'est que Antigone, c'est une histoire ancienne, hein, qui nous vient de très très loin, mais qui a été écrit et réécrit et réécrit par différents auteurs. Et je pense qu'il y a quelque chose dans cette histoire-là qui touche à ce qu'on est en tant qu'être humain, c'est-à-dire la nécessité d'une part d'avoir une preuve matérielle pour accepter la mort, et ensuite la nécessité des rites funéraires pour pouvoir faire son deuil. Et si je pense que si cette histoire a été écrite et réécrite autant de fois, c'est peut-être parce qu'on touche à des questions profondément humaines. Alors peut-être qu'il en est resté quelque chose au moment où j'écrivais, mais en tout cas c'était pas quelque chose de conscient. Je pense que dans l'écriture, ce que je voulais transmettre, c'était à la fois ces questions très profondes de l'humanité et puis la vie quotidienne qui continue, le rythme de la vie quotidienne qui est un rythme assez lent et rassurant aussi, et puis ce passé qui surgit par moments comme ça quand on l'attend pas.
Un passé qui surgit de la terre, notamment, puisque lorsque vous débarquez pour commencer à prendre des notes sur ce que c'est qu'un charnier, vous le dites d'ailleurs, vous savez absolument pas à quoi ça ressemble, parce qu'on a beau le voir à la télévision, c'est quelque chose de saisissant. Vous débarquez à Tomasica, une localité qui est à 40 km à peu près de Banja Luka, la capitale des Serbes de Bosnie. On va écouter un peu quelque chose qui fait penser à ce que vous avez vu et que vous décrivez dans votre livre, Taina Tervonen. C'est une archive qui est sortie, je le disais, de ce long reportage qui a été diffusé sur France Culture en 2008. C'est Laure de Vulpian et elle se trouve à Kamenica, qui n'est pas très loin.
Au bord de la route, quelques voitures en stationnement, une pelleteuse qui racle la terre, un espace interdit au public sur lequel une quinzaine de personnes s'activent. La moitié d'entre elles portent la combinaison blanche d'ICMP, un anthropologue, un archéologue, des experts en médecine légale et des techniciens équipés de petites truelles caressent la terre brune et sèche et dégagent des ossements.
On voit ici l'équipe qui travaille sur le charnier secondaire à Kamenica. Ce sont les gens qui portent des gants, des combinaisons pour protéger ses vêtements de terre et puis de la poussière. On voit le reste de squelettes des victimes, même les parties de vêtements. C'est un désordre complet.
Murat Urtic dirige l'Institut des personnes disparues.
Et sur ce route, à une longueur de 12 km, il y a encore des masses de tombes qui seront au cours de cette année ou au cours des prochaines années exhumées.
On sait que sur cette route où on est maintenant, il y a encore des charniers. Et puis, dans les années suivantes, on va tenter de tout découvrir, de tout ouvrir et puis d'identifier ces personnes.
U grobnici broj 10 koju smo mi radili pretprošle godine pronašli smo 1153 slučaja.
Dans le charnier numéro 10 qu'on a été retrouvé l'année dernière, on a trouvé 1000 1153 personnes.
Samo 100 metara od ove grobnice je bila masovna grobnica 2003. obrađena, 506 slučajeva.
À 100 mètres d'ici, il y a un endroit où il était un autre charnier. Il y a eu 506 personnes retrouvées.
Samo 200 metara niže dole masovna grobnica koju je uradio Haški tribunal 158 slučajeva.
À 200 d'ici, il y a eu un charnier qui a été examiné par le tribunal de la Haye et il y avait 158 personnes.
Taïna Tervonen, ce n'était pas à la même date, ce n'était pas au même endroit, mais au fond c'est pareil, c'est-à-dire cette terre de Bosnie qui recrache des, non pas des cadavres entiers, mais des morceaux, puisque les Serbes ont tenté de brouiller les pistes en les déplaçant, même en séparant les restes humains. Vous décrivez dans votre livre Les Fossoyeuses, c'est les premières pages du livre, ce saisissement qui vous a saisi, et c'est vous, avec des détails très précis. Il fallait faire comprendre, comme vous le dites, qu'un charnier, vous l'écrivez, ce n'est pas une idée, un charnier c'est du boulot, et un boulot terrifiant.
Oui, un charnier c'est du boulot. Moi ce que j'ai regardé sur les bords de cette fosse pendant une semaine, c'était des gens qui travaillaient, dont c'était le travail quotidien, qui faisaient ça parfois depuis 15 ans. Et qu'il faisait avec beaucoup de soins. Et c'est un travail qui est très long, qui est très méticuleux et qui n'est pas. Ben c'est pas un travail très propre, c'est un travail qui pue parfois. Et je pense qu'on a cette idée en fait qu'un charnier, qu'un génocide, c'est quelque chose de l'ordre de l'indicible, de l'irreprésentable. C'est un petit peu l'idée aussi que moi j'avais en y allant. Et finalement, ce que j'ai vu était à la fois très banal, parce que c'était des gens au boulot qui arrivaient le matin, qui faisaient une pause café, une pause clope, une pause déjeuner, et qui repartaient le soir pour revenir le lendemain matin, et ainsi de suite, pendant plusieurs semaines. Et à la fois, c'était un travail qui était hors de l'ordinaire, parce qu'il s'agissait de réparer quelque chose qui avait été piétiné, il s'agissait de restituer la dignité à ces êtres qui en avaient été privés.
Et vous êtes très vite, Taïna Tervonen, attirée par celle qui dirige ce chantier. Elle s'appelle Senem, elle est bosniaque, elle est anthropologue, elle travaille pour l'AICMP, c'est-à-dire la Commission internationale pour les personnes disparues. Elle fait ce travail et vous allez vous attacher à suivre ses gestes, ses journées. Et elle va vous emmener de charnier en charnier et puis à la morgue. Et là, c'est un entrepôt énorme dans lequel il y a des dizaines et des centaines de corps. Et il y a là aussi tout un travail. Vous décrivez la façon dont on lave les vêtements. On essaye de reconstituer ce qui reste d'un corps.
Oui, Senem, je l'ai rencontré 3 ans avant d'arriver sur le charnier. Donc je l'ai rencontré pour la première fois dans la morgue qu'elle dirige. Et où, dans laquelle je suis retournée à plusieurs reprises par la suite. C'est vrai que la reconstitution des restes est un travail très, 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 très lent. C'est un travail très répétitif aussi. Et à la fois, c'est un travail qui est absolument nécessaire pour qu'on puisse avoir toutes les informations nécessaires pour identifier les personnes. Et c'est un travail que moi, j'ai trouvé fascinant parce que les os parlent. Les os disent beaucoup de choses sur qui était la personne. Les objets parlent aussi. Les objets qu'on voit dans cette morgue parlent souvent d'ailleurs plus que les os qu'on voit. Parce qu'on... Les objets ne sont pas vivants, donc ils ne peuvent pas mourir. Donc il y a quelque chose de la vie dont ces objets ont été témoins qui continue devant nos yeux dans la morgue. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
Alors on va écouter un autre reportage qui lui date de 2005, toujours sur France Culture. C'est Nicole Duroy qui nous emmène à la morgue de Tuzla.
Nous sommes dans la morgue de Tuzla où il y a dans la première salle des tables de dissection, d'identification, sur lesquelles on pose les sacs en plastique blanc à l'intérieur desquels se trouvent les restes exhumés des charniers. Ici, ils ouvrent les sacs, ils sortent les restes. Ils prélèvent tout ce qui peut permettre à l'identification, d'abord les vêtements, les restes éventuellement les bijoux, tout ce qui a pu résister au temps. Et ensuite, ils les mettent dans la salle d'à côté, où ils lavent et où ils nettoient. Combien reste-t-il de corps non identifiés encore ici?
Zlatan Abanović, responsable de la morgue de Tuzla.
Pour le moment, on a à peu près, dans tout ce projet d'identification, 3000 sacs. Il appelle ça les sacs. On parle toujours des sacs et pas des corps. Le bâtiment est partagé en deux.
Na desnoj strani se nalazi rashladna komora koja služi za smještaj tijela.
Côté droite, on a une chambre froide qui sert à stocker les corps.
Dok se na lijevoj strani nalazi taj radni prostor koji služi za obradu.
Et du côté gauche, on a ces locaux de travail qui servent au traitement des restes. Cette chambre froide est d'une surface de 250 mètres carrés.
U prostoriji se nalazi 867 polica.
En ce moment, on a 860 étagères dans cette pièce.
Koje služe za smještaj vreća sa posmrtnim ostacima.
Qui sert à stocker les sacs avec des restes des corps.
Taina Tervonen, ce reportage date de 2005 de Nicole Duroy. Vous y étiez un peu plus tard, mais aujourd'hui nous sommes 25 ans après ce massacre. Et il y a toujours des charniers à ouvrir, toujours des corps non identifiés, ce travail de fourmi. Et quand vous parlez de Senem, elle fait ce travail avec une efficacité, quelque chose qui ressemble à une froideur, une rigueur. C'est important pour faire ce travail. Mais quand vous parlez avec elle, c'est une femme en colère. Parce que justement, au fil des années, les télévisions ne viennent plus, les journaux sont passés à d'autres massacres. Il y a eu le Rwanda, il y a l'Afghanistan, enfin, il y en a partout. Donc, plus personne ne s'y intéresse. Donc, les politiques ne donnent plus vraiment d'argent. Tout le monde en a assez et elle se bat avec des moyens qui se réduisent. Là, on entend Nicole Duroy dire qu'il y a une chambre froide. Elle n'en a même plus et elle est obligée de lutter avec des moyens antiques, du gros sel, pour lutter contre la décomposition des corps qu'elle exhume.
Oui, effectivement, dans la morgue dans laquelle Senem travaillait à l'époque où je l'ai connue, qui se trouve à Sanski Most, donc dans une autre partie de la Bosnie, plutôt vers la frontière avec la Croatie, dans cette morgue-là, il n'y a jamais eu de chambre froide. Pour une raison simple, c'est une morgue qui reçoit plutôt des os, enfin des restes qui sont des os, donc sans chair accrochée aux os, donc qui peuvent tout à fait être conservés de cette façon-là. Or, dans le charnier de Tomašica, la particularité était que la qualité du sol, qui est un sol très argileux, avait empêché la décomposition des corps. Donc les corps sortaient quasiment entiers, alors qu'ils étaient enterrés depuis plus de 20 ans à ce moment-là. Et donc la décomposition reprenait une fois à l'air libre. Donc évidemment, ça posait problème à Senem, qui longtemps s'est demandé comment elle allait faire pour gérer tout simplement ces centaines de corps. Il faut savoir qu'il y avait effectivement des centaines de corps qui arrivaient dans sa morgue. Et elle a cherché du côté des Égyptiens. Elle s'est demandé comment on faisait avant, comment fabriquer les momies. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé le sel. Donc vraiment, c'est des moyens rudimentaires auxquels elle a dû faire appel. Elle est à la fois en colère parce qu'effectivement on ne lui donne pas les moyens de faire son travail correctement et puis surtout elle est en colère parce qu'elle trouve qu'on manque de respect pour les morts et quand on manque de respect pour les morts, on manque de respect pour les vivants aussi parce que derrière les morts il y a toujours des vivants. Donc ça la mettait très en colère. Et à la fois elle était aussi fière de trouver des solutions quand même malgré tout. De trouver des solutions qui étaient de la débrouille souvent, pour justement faire en sorte que les corps, les morts retrouvent leur dignité. D'ailleurs, elle l'expliquait comme ça. Elle dit, le jour où j'ai mis le sel sur les corps, j'avais l'impression que je leur rendais leur dignité.
Thank you.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Voilà, ça c'est moi, avant la guerre avec mon fils aîné, Mouyo. Ça c'est avec mon mari et Mouyo, lorsqu'il faisait l'armée à Belgrade.
Depuis 1995, Sabra vit au milieu de ses morts, son mari, ses deux fils et tous les hommes de sa famille. 50 personnes, toutes disparues à Srebrenica. 10 ans après, aucun corps n'a été retrouvé.
J'ai eu peur de mourir avant qu'il ne soit identifié et enterré. J'ai donné mon sang pour l'ADN, mes deux filles aussi. Et là, on vient de m'annoncer que 10 ans après sa disparition, le corps de mon fils aîné a été identifié.
Taina Tervonen, les fossoyeuses au pluriel, ce sont deux femmes. On vient de parler de Senem, l'anthropologue qui fouille la terre et qui tente de redonner au corps une identité. Elle n'y arrive pas toujours parce que parfois, dans l'affolement des premiers charniers, des gens ont été reconnus parce qu'ils portaient un blouson qui ressemblait à celui du disparu. Ils ont été enterrés et parfois on se rend compte que ce ne sont pas les bons disparus. Et du coup, il y a une autre fossoyeuse, elle s'appelle Darija, elle est serbe et elle travaille sur l'ADN. Là, dans cette archive, on entendait justement une femme qui montre des photos qui dit qu'elle a donné son ADN pour tenter justement de retrouver la dépouille de ses disparus. Et dans le film que vous avez réalisé, qui s'appelle « Parler avec les morts », on vous voit accompagnée d'Arija dans sa petite voiture rouge. Elle sillonne sans arrêt les routes de Bosnie. Elle est reçue, alors qu'elle est serbe, dans les familles des Bosniaques, avec une gentillesse, les gens commencent à raconter. Et vous dites, au fond, Senem tente de réparer les morts et elle tente de réparer les vivants.
Oui, je crois que ce qu'elles font ensemble, c'est qu'elles essayent de retisser le lien qui a été rompu entre les vivants et les morts. Le travail de Senem, effectivement, consiste à partir des dépouilles qu'elle retrouve, parfois à partir des simples restes, donc quelques os qui sont retrouvés, d'extraire l'ADN. Et Daria, elle, va rencontrer les familles des disparus. Elle prélève 4 gouttes de sang. Et à partir de ces 4 gouttes de sang, on va extraire un autre profil ADN. Et c'est en comparant les profils donc des vivants et des morts qu'on va réussir à déterminer l'identité d'un mort. Daria, son travail est un petit peu différent de celui de Senem, parce qu'elle doit faire face aux vivants. Je disais tout à l'heure que les os parlent, mais les vivants parlent, non seulement ils parlent, mais ils peuvent aussi pleurer, être en colère, s'emporter, être dépassés par leurs émotions.
Et vous dites d'ailleurs à un moment, Taina Tervonen, dans votre livre, que vous avez eu plus de mal avec les vivants qu'avec les morts.
Oui, parce qu'il faut faire face. Hein. Il faut faire face d'une façon totalement différente. Il faut savoir trouver la bonne distance. C'est tout le travail de Daria, d'ailleurs, hein, qui, quand elle va dans les familles, elle doit poser des questions qui sont des questions très factuelles sur l'apparence physique du disparu, par exemple, sur ce qu'il portait au moment de sa disparition. Mais évidemment, toutes ces questions très factuelles réveillent toute une foule de souvenirs dans la mémoire des gens qu'elle a en face et à qui elle pose les questions. Et parfois, elle peut se retrouver avec des histoires, des anecdotes qui sont racontées, qui ne lui servent strictement à rien dans son travail d'enquêtrice. Quand on lui explique que quelqu'un était très intelligent ou qu'il était bon en mécanique, évidemment, les os n'ont rien à dire sur ce genre de sujet. Et elle doit faire en sorte qu'elle arrive quand même à avoir les informations dont elle a besoin, tout en écoutant. Parce qu'elle dit, chaque personne a le droit d'être entendue. Souvent, ce sont des personnes qui attendent depuis des années que quelqu'un vienne les voir. Et les 4 gouttes de sang qu'ils donnent, c'est le seul geste, au fond, qu'ils peuvent faire pour tenter de retrouver les êtres qui leur sont chers et qu'ils souhaitent enterrer.
On va écouter la voix de Daria, telle qu'on l'a copiée dans votre livre « Parler avec les morts ».
Well, I was... How old I was? 17? I remember sitting in the front yard with my parents and a friend of mine who just called me this morning, and her parents, we were ready to move. You know, we were just waiting to see what is going to happen. I remember all our property was packed in big boxes and bags and everything, you know, and we were just ready to move, to leave Banja Luka. But fortunately...
On entend donc Daria raconter ses propres souvenirs de la guerre. En fait, elle est serbe, donc elle habitait Banja Luka et ils ont à un moment c'était la guerre, donc il y avait l'avancée des troupes bosniaques et ils ont tenté de partir. Puis finalement, elle dit en fait, on est resté. Mais si ça se trouve, si on avait quitté notre maison, on aurait peut-être été obligé de s'exiler comme beaucoup d'entre nous, de ces habitants de l'ex-Yougoslavie l'ont fait. Et d'ailleurs, dans ses recherches d'ADN, elle se trouve parfois devant des territoires vidés complètement, des villages rayés de la carte, où il n'y a plus personne. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'il y a des vivants ailleurs? On ne sait pas, dans d'autres pays. En fait, elle se trouve, elle aussi, devant des silences qui sont terribles.
Oui, le travail de Daria est vraiment un travail de, comment dire, presque de détective. Hein. Elle fait des recherches à la fois sur Internet, elle fait des recherches dans des bases de données dont elle dispose, et parfois, tout simplement, elle va sur le terrain quand elle n'arrive pas à avoir suffisamment d'informations. Elle se dit, il s'est passé quelque chose dans tel ou tel village. Forcément, il y a des disparus, mais dans toutes les bases de données dont elle dispose, elle ne trouve aucune trace de disparus. Donc elle va sur place, elle frappe aux portes, elle pose des questions. Et c'est comme ça qu'elle arrive à retrouver parfois traces de personnes qui ne figurent pas dans les bases de données parce qu'il n'y avait plus personne pour les déclarer disparues. Il s'agit souvent de personnes âgées qui vivaient seules, qui sont restées là quand tout le monde est parti et que personne ne cherche. Elle les appelle des disparus invisibles. Et je crois que c'est des cas qui lui tiennent très particulièrement à cœur parce que c'est des personnes qui, comment dire, comme si tout le souvenir de leur vie avait disparu avec eux, comme s'ils n'avaient jamais existé.
Et puis dans votre film, Taina Tervonen, on assiste à cette cérémonie qui revient tous les mois de juillet, qui est absolument terrifiante. Enfin, on est glacé de voir ces familles qui viennent, tous les morts identifiés enfin sont exposés au stade, et toutes les familles viennent, et tout le monde est enterré en même temps. Et c'est un spectacle hallucinant.
Oui, c'est vrai que c'est... Alors pour les gens de là-bas, c'est quelque chose qui revient tous les ans, donc il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'habitude. Et curieusement, c'est aussi un moment de retrouvailles. Donc il s'agit de funérailles collectives qui sont organisées tous les ans, donc dans la région de Prijedor, là où j'ai tourné, et que, aussi la région que le livre raconte. C'est toujours fin juillet, à la même date. Et les victimes qui ont été identifiées pendant l'année qui vient de s'écouler sont enterrées à ce moment-là. Donc les familles se retrouvent. Les familles sont souvent éparpillées en Bosnie ou dans d'autres pays européens, parfois aux États-Unis, en Australie. Et les funérailles sont des moments de retrouvailles. Et c'est un moment important, alors non seulement pour le deuil, mais aussi pour la vie qui continue. C'est vrai que c'est un moment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est un moment de douleur. Et à la fois, c'est aussi la vie qui continue malgré tout. Et je pense que pour moi, la Bosnie, c'est beaucoup ça. Hein. C'est à la fois la mémoire de cette guerre, la douleur qui reste, la difficulté de transmettre aussi pour beaucoup de personnes. Et à la fois, je pense que là-bas, j'ai compris la chance qu'on a de pouvoir vivre un quotidien normal, entre guillemets, un quotidien dans un pays qui n'est pas en guerre. C'est un privilège.
Alors, on en revient à ces 25 ans qui ont passé. Au fond, dans le reste du monde, tout le monde sait Srebrenica, on sait ce qui s'est passé, on sait qui est mort en grande majorité, qui a ensuite enterré, puis déterré les cadavres. Mais sur place, en Serbie, en tout cas, en République serbe de Bosnie, les livres d'histoire ne racontent pas du tout la même histoire. On va écouter June Porter, qui est la porte-parole de la Commission internationale pour les personnes disparues, au micro de Nicole Duroy en 2005.
C'est très important sur un niveau personnellement pour les gens, bien sûr, de savoir le destin de leurs proches qui sont disparus. Mais pour la société en général, c'est aussi très important. Et je pense personnellement, en fait, que c'est une de notre activité le plus important. Parce que il y a encore beaucoup de Serbes qui ne croient pas que Srebrenica est passé. Ce n'est pas simplement une question d'admettre le crime, mais il y a beaucoup de Serbes qui sont convaincus qu'ils sont les victimes d'une conspiration anti-serbe dans le monde. Mm-hmm. Il y a des nationalistes serbes qui disent le massacre de Srebrenica n'était pas la vérité.
Taina Tervonen, on sait que la négation de ces massacres, de ce génocide, puisque c'est ainsi que le tribunal de la Haye l'appelle, est très vivace en République serbe. Et est-ce que justement ce déni de la réalité n'est pas quelque chose qui pèse? Vous dites la vie normale a repris, mais qu'est-ce qui va se passer si les nouvelles générations ne sont pas au courant des crimes qui se sont produits? Comment est-ce que la cohabitation entre les différentes populations peut reprendre normalement?
Alors, les différentes populations cohabitent déjà, de fait. Hein. Elles se côtoient. Alors après, il y a eu beaucoup de déplacements de populations en Bosnie qui concernent toutes les communautés. Hein. Il n'y a pas eu que les Bosniens qui ont été déplacés. Il y a aussi des Serbes. Il y a beaucoup de réfugiés serbes en Bosnie, des réfugiés serbes qui sont arrivés de Croatie ou qui ont été déplacés à l'intérieur de la Bosnie. Cette question du négationnisme, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, hein, de négationnisme, elle est très très compliquée. Les partis nationalistes ont beaucoup beaucoup de pouvoir aujourd'hui en Bosnie. Il existe aussi d'autres partis, mais ce sont plutôt les partis nationalistes qui dominent. Et le pays est quand même très divisé en deux, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la Fédération de la Bosnie-Herzégovine et de l'autre côté la République serbe de la Bosnie. Et par exemple, les programmes scolaires ne sont pas les mêmes d'une entité à une autre. C'est une question qui est très compliquée, à laquelle moi j'ai pas de réponse. Je pense que le travail de personnes comme Senem et Daria contribue à ce que cette question-là soit, comment dire, qu'il y ait des preuves. Chaque corps est évidemment une preuve, y compris pour la justice. C'est important que la justice fasse son travail, non seulement la justice pénale internationale, mais aussi la justice nationale qui est en marche aussi en Bosnie. Et puis peut-être qu'il faudra un peu de temps aussi pour que tout ça, ça se transforme en récit. Qu'il commence à y avoir des livres qui soient faits là-dessus, qu'il commence à y avoir des films qui soient faits, et pas uniquement par des personnes extérieures à cette histoire, mais par des personnes qui l'ont vécu ou qui en sont les héritiers aujourd'hui, et que eux commencent à raconter cette histoire. Ça commence à venir petit à petit, mais ça demande du temps, et 20 ans, 25 ans, ben c'est très très court.
Mais vous, votre livre, Les Fossoyeuses, Taina Tervonen, il est paru en France, en français. Est-ce qu'il y a ce genre d'ouvrage qui paraît là-bas?
Alors moi, je ne lis pas le serbo-croate moi-même, donc voilà, je suis pas.
Non, mais vous ne savez pas si des journalistes là-bas travaillent aussi à établir ce genre de vérité.
Alors, il y a des journalistes, évidemment, qui travaillent sur ces questions-là. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est une histoire dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, dont on a beaucoup parlé à l'international. Je pense qu'une partie de la population aujourd'hui, en Bosnie, trouve qu'on devrait passer à autre chose et parler de la vie d'aujourd'hui, qui consiste aussi en des problèmes de corruption, des questions de nationalisme, la question du chômage. Il y a beaucoup de Bosniens qui quittent leur pays aujourd'hui pour aller à l'étranger parce que la situation en Bosnie est économiquement très très compliquée, le marché du travail est très compliqué. Donc voilà, il y a aussi cette lassitude-là qui prend le dessus, quoi.
En tout cas, nous qui avons vu des images, il faut qu'on se plonge dans ce livre parce que ça donne de la réalité et on se raccroche à ces deux femmes formidables dont vous avez fait le portrait, Taina Tervonen. Votre livre « Les Fossoyeuses » vient de paraître chez Marchiali. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Au revoir.
Merci.